Le Labomatique,
l'émission scientifique. Daniel Kunt était en conférence à l'Espace des Sciences le mardi 19 février pour parler de la vie dans l'univers. Et oui, il s'est confié à Romain sur sa passion de l'astronomie et la transmission d'une telle connaissance au grand public. Il s'agit aujourd'hui d'une conférence ce soir à 20h30 intitulée « Dossier médical partagé et intelligence artificielle » avec Yvon Merlière et Romain Farel. En attendant, on écoute Daniel Kunt avec Romain.
Je m'étais un peu intéressé au ciel quand j'étais au collège, maintenant ça serait le collège, dans le 5e, 4e. Voilà. J'avais commencé à lire un petit bouquin, je me souviens, qui s'appelait L'astronomie, c'était de Pierre Rousseau. Il y avait très peu de livres de vulgarisation à l'époque. Je crois que la première fois qu'il y a eu un vrai livre de vulgarisation en astronomie, c'était celui d'Hubert Reeves. Et ça, c'était moi, j'avais une trentaine d'années déjà à l'époque, hein, c'est venu beaucoup plus tard. Et je crois que la première fois, c'était quand j'étais avec un ami, beaucoup plus âgé que moi. J'étais dans le sud de la France et il avait une lunette. Et puis il avait une carte du ciel. C'était quelqu'un qui travaillait à l'Institut de Géographie Nationale. Et il m'a fait observer Mars. Mars, à cette époque, je pourrais retrouver la date exacte, ça devait être dans les années 70. Vous savez, de temps en temps, Mars est très proche de nous. C'était le cas d'ailleurs l'été dernier, en 2018, elle était énorme. C'était le cas. Et je voyais cette planète orangée, et j'étais fasciné par ça. Et surtout, j'ai été fasciné de voir que le ciel était consigné sur une feuille de papier et que je pouvais identifier, faire un aller-retour entre le dessin des constellations qui avait un nom. Je découvris que les étoiles avaient un nom, étaient nommées, etc. Et on a commencé à me parler des distances, etc. Je crois que c'est les gens qui ne connaissent pas l'astronomie, la première chose qui les fascine, ce sont les distances. Voilà, donc ça a commencé par me fasciner, puis ensuite les choses se sont arrêtées comme ça. Bon, j'avais trouvé le ciel intéressant, mais j'ai pas donné suite. C'est beaucoup plus tard en fait. J'ai pas été astronome amateur, par exemple. Des gens qui construisent leurs propres lunettes. Non. Je suis passé une fois à la Société Astronomique de France, je devais avoir 18-19 ans, j'avais passé quelques heures. J'avais lu 2-3 articles, et puis c'est tout. C'est vraiment à la fin de mes études, quand j'ai passé ma licence, quand j'ai décidé de faire de la recherche, que vraiment je me suis dit l'astrophysique c'est intéressant. Pourquoi ? Parce que effectivement pour moi c'était le rêve, l'aventure, et voilà, tout ce que l'on ne peut pas atteindre nous fait rêver. Et c'est vrai que les étoiles, c'est comme ça. Voilà, c'est comme la mer, comme les montagnes. Daniel Kunt, je suis astrophysicien, je suis directeur de recherche au CNRS et je travaille à l'Institut d'astrophysique de Paris.
Donc nous sommes avec Daniel Kunt, expert de la cosmologie, des quasars, de la formation des galaxies. Vous travaillez à l'Institut d'astrophysique de Paris notamment. Vous définissez vous-même comme un observateur. Au-delà de vos activités de recherche dites professionnelles, vous aimez la vulgarisation scientifique ou en tout cas la faire partager. Différents projets comme Les oreilles dans les étoiles, on pense aussi à La nuit des étoiles dont beaucoup d'entre nous ont été des fidèles. D'autres ouvrages comme Peut-on penser l'astrologie, science ou voyance, ou encore L'astrologie est-elle une imposture. Beaucoup d'ouvrages sur lesquels on pourra revenir. Mais d'abord, vous vous félicitez souvent de la coopération dans votre domaine entre les scientifiques professionnels et les passionnés amateurs qui permettent des ressources très très fortes. Avant de revenir sur ces atouts que ça représente, comment est-ce qu'on explique justement qu'il y ait autant de passionnés capables de fournir, des passionnés sérieux, capables de fournir autant d'informations ?
Je pense que l'accès au ciel est quand même relativement facile. Il suffit d'avoir une petite lunette. Et là, vraiment, il y a un monde fabuleux, merveilleux, qui s'offre à notre regard. Et je crois que le ciel, c'est lui-même qui est le responsable. C'est qu'il fascine, il inspire crainte, respect, fascination, envie d'évasion. Et je crois que c'est la raison principale. D'ailleurs, le ciel a été observé pendant des milliers d'années avant l'invention de la lunette, même avant l'invention de la lunette. Donc c'est quelque chose qui est en nous, je pense. Et alors, c'est vrai que l'astrophysique... L'astronomie est partagée entre astronomes professionnels et astronomes amateurs. Il n'y a pas de chirurgien amateur, hein, Dieu merci, mais il y a des astronomes amateurs. Et parfois, il y a des liens, et il y a même des programmes, des projets qui se font conjointement.
Oui, vous parlez par exemple du projet Galaxizo ou Vigiciel et Réseau Fripon qui ont permis des choses assez incroyables. Justement, quelle est la différence? Quels sont les atouts qu'ils ont, eux, ces passionnés amateurs que vous n'avez pas, vous?
Bien, si vous voulez, il y a quand même des projets qui nécessitent beaucoup de temps, qui nécessitent aussi une grande couverture et que les astronomes professionnels ne peuvent pas nécessairement faire. Par exemple, les comètes, beaucoup de comètes ont été observées très longtemps par des amateurs parce qu'ils connaissent le ciel et à l'œil nu, ils le voient, ils regardent assez souvent. Un astronome, ils connaissent à peu près toutes les étoiles visible à l'œil nu, et quand quelque chose de nouveau arrive, tac, ils s'en aperçoivent immédiatement. Pour observer une nouvelle comète, il faut arriver avec des instruments puissants, c'est vrai, mais qui ont un champ de vue beaucoup plus petit. On ne peut pas scanner tout le ciel à chaque fois, chaque nuit. Donc finalement, bien sûr que nous aussi, professionnels, nous trouvons des comètes, mais on ne trouve pas les mêmes, et voilà, c'est une des raisons pour lesquelles les amateurs ont longtemps trouvé de nouvelles comètes. Et puis, il y a, par exemple, si je prends le réseau Fripon, qu'est-ce que c'est que le réseau Fripon? C'est une caméra, ce qu'on appelle fisheye, qui a un peu les yeux d'oiseau, qui regarde le ciel d'un seul coup, à 360 degrés presque, hein, à 180, et vous mettez ça sur le toit des écoles, et donc tous les soirs, vous mettez en route, et puis vous laissez la vidéo se faire. Et dès qu'il y a une météorite qui passe, ça arrive de temps en temps, je ne parle pas d'une étoile filante, hein, une grosse météorite, quelque chose de puissant, eh bien, ça peut être observé simultanément par une dizaine, une vingtaine de dispositifs comme ça, placés dans des écoles différentes. Et donc, par triangulation, on arrive à savoir exactement où c'est tombé. Et ça, c'est formidable, parce que dès que l'alerte est donnée, eh bien, les professionnels ou d'autres personnes peuvent arriver sur place et arriver dans beaucoup de cas à localiser la chute de la météorite, la récupérer et l'analyser alors qu'elle vient de tomber. Donc, elle n'a pas eu le temps de s'altérer, etc. Galaxizo, c'est un autre projet qui consistait à regarder systématiquement, avec un protocole qui avait été mis en place par des chercheurs professionnels, les amateurs, ça les intéressait, effectivement, de regarder le catalogue et puis de les classer d'une manière systématique, ronde par ronde, elliptique, spirale, la couleur, etc. Et ça a permis des découvertes. Découvertes très intéressantes que les astronomes professionnels n'auraient peut-être pas faites.
Parmi ces exemples un peu plus anciens, on peut citer le Search for Extraterrestrial Intelligence, qui est un peu plus ancien, qui est assez drôle aussi dans sa mise en place. Mais vous parliez de la fascination de regarder les étoiles. Est-ce qu'on l'explique aussi par la fascination d'essayer de ne pas se sentir seul dans cette immense galaxie, à savoir une autre vie dans l'univers, qui est la thématique que vous mettez en avant pour la conférence de ce soir?
Oui, mais ça c'est évidemment une grande question. Hein. Sommes-nous seuls Si on est seul, pourquoi si nous ne sommes pas seuls, pourquoi qui sont, où se trouve la vie, quelle forme a-t-elle prise, s'il y a une vie intelligente, comment ça se fait qu'on ne les repère pas, est-ce qu'on a été visité dans le passé, enfin voilà, toutes ces questions qui sont à la limite entre la science et la science-fiction, hein. La science-fiction s'en est emparée depuis très longtemps, et donc oui, je peux comprendre, et tout le monde peut comprendre, c'est une question qui nous fascine. D'ailleurs, ça fait partie des grandes questions. Qui sommes-nous? D'où venons-nous? Où allons-nous? Voilà. Qu'est-ce que la vie? Comment est-elle apparue? C'est encore un grand mystère. Donc l'astrophysique, évidemment, est convoquée pour ce genre de questions.
Pourtant, ce n'est pas tant dans vos habitudes, dans les ouvrages que vous avez pu publier, de traiter de cette question de la vie extraterrestre. En tout cas, ce n'est pas les thèmes principaux. Qu'est-ce qui va nourrir ce soir votre conférence? Comment ça va se dérouler pour parler de cette vie extraterrestre? Parce que ça fait vraiment... On a l'impression que vous allez nous apporter presque des réponses.
Non, vous savez, les chercheurs n'apportent pas de réponses. En général, ils ouvrent de nouvelles questions et qui elles-mêmes suscitent de nouvelles questions, etc. Bon, et donc, on découvre des paysages nouveaux et les horizons reculent tout le temps. Hein. C'est comme ça qu'il faut voir les choses. Mais c'est vrai quand même qu'on a de nouvelles... on avance, on a de nouvelles réponses quand même. On en a. À la question fondamentale, pourquoi la vie existe-t-elle ailleurs, on ne sait pas répondre encore. Mais on a des outils, et les outils commencent à s'affiner de plus en plus. Il y a des missions qui vont aller sur Mars, voilà. Et puis, surtout, ce qui est nouveau quand même, c'est la découverte de nouvelles planètes en dehors du système solaire, ce qu'on appelle les exoplanètes. Ça, c'est fondamental, c'est quand même une révolution qui maintenant date une vingtaine d'années, un peu plus même. Mais pendant très longtemps, moi je me souviens quand j'ai commencé la recherche, un étudiant qui serait venu me voir en me disant, vous savez, ça m'intéresse d'essayer de détecter d'autres planètes autour d'une étoile, j'aurais dit, écoutez, c'est gentil ça, mais enfin bon, peut-être que vous devriez choisir un autre sujet si vous voulez rentrer au CNRS. Mais c'était pas parce que le sujet n'était pas intéressant, c'est parce qu'on n'avait pas les moyens en fait, on n'avait pas les techniques. Vous savez, à chaque fois qu'on développe une nouvelle technique, c'est une nouvelle fenêtre qui s'ouvre sur l'univers, et donc forcément, il y a potentiellement des découvertes qui vont s'engranger.
Et donc, au XXe siècle, on a vu beaucoup de témoignages concernant l'apparition d'ovnis dans le ciel. Est-ce que vous pensez, vous, à titre personnel, que ça a pu arriver ou que tout cela n'est encore que de l'ordre du fantasme ou de la supputation ?
Moi, je pense que c'est de l'ordre de la supputation. Vous savez, il n'y a pas très longtemps, on a découvert une sorte de météorite, un objet un peu bizarre qui se déplace, qui est allongé, dont on se demande si ce n'est pas un objet extraterrestre. On n'en sait rien, on n'en saura rien évidemment. Pourquoi pas, c'est possible, mais ça reste encore des hypothèses. Alors, il y a effectivement, on a pris au sérieux les objets volants non identifiés. On les a pris au sérieux. Beaucoup de gens, le public, souvent c'est parti des fake news, croient qu'on cache la vérité. Ça, c'est la fameuse théorie du complot. Maintenant, on est submergé par ce genre de choses. Mais en fait, non, on a toujours pris au sérieux ce genre de choses. Il y a même eu des pilotes qui ont vu des pilotes d'avion, des gens dont on ne peut pas dire, sauf de temps en temps, que ce ne sont pas des gens qui perdent la tête. Ils ont vu des choses un peu extraordinaires. Là, on pourrait dire que, alors je ne connais pas les chiffres exacts, mais 99% des cas, on sait ce que c'est. On arrive. Mais parfois, il faut faire des enquêtes assez poussées quand même. Hein. En tout cas, tout est répertorié. Il y a une agence aux États-Unis qui fait cela. La même chose en France. Hein. Ça s'appelle je ne me rappelle plus du nom, le CEPRA ou quelque chose comme ça. Donc, il y a une agence, je crois que c'était basée à Toulouse. Enfin, c'est le CNES qui s'en occupait, qui continue comme ça à garder les témoignages et ensuite... Bon. Mais souvent, ce sont des phénomènes météorologiques connus, ou même peut-être la planète Vénus quand elle se couche le soir ou se lève le matin. Enfin, la plupart du temps, ce sont des choses comme ça. Voilà. Mais il y a un nombre très petit de cas où... Voilà. Alors, on évite tout de suite de prêter attention à des cas très farfelus, hein, gens qui vous disent « ils sont venus, ils sont descendus, ils m'ont pris, ils m'ont emporté, je suis parti dans l'espace ». Etc. Ça, il y en a évidemment, il y en a.
Quelque part, avec une conférence comme celle de ce soir, vous entretenez, j'ai envie de dire, le fantasme. Vous dites aussi que mobiliser les futures générations très en amont sur ce genre de thématiques sont très importantes. Est-ce que c'est une façon d'entretenir la fascination qui, elle, est très productive pour la recherche scientifique ?
Je crois qu'on n'a même pas d'effort à faire pour entretenir quoi que ce soit. Je crois qu'on est tous fascinés par ces questions-là. Et puis on peut se poser la question, que va devenir l'humanité ? Les problèmes de ressources, les problèmes de démographie. On sait maintenant que notre planète est fragile, qu'elle est petite, qu'elle est isolée dans l'espace. Il n'y a pas de voisin. On ne peut pas frapper à la porte du voisin en disant « là, ma chambre, elle est morte, viens me filer un coup de main ». Donc on est responsable de notre planète. C'est vrai que le simple fait d'avoir découvert des planètes différentes et de les avoir explorées, comme ça a été le cas avec les sondes voyageurs, puis après toutes les autres, on a pris conscience que notre planète est une planète. Et du coup, on se pose des questions. Pourquoi la vie est arrivée là et pas ailleurs ? Voilà. Et qu'est-ce qu'il faut faire ou ne pas faire pour qu'on continue à pouvoir rester là ? Et si on ne peut plus rester là, où peut-on aller ? Donc je crois que, voilà, comprendre comment la vie est apparue, c'est savoir se préserver et savoir aussi peut-être anticiper l'avenir. So, John, Stan, DK, Ewan.
Alors il y a un intérêt très important aussi dans cette conquête spatiale, c'est l'intérêt économique, celui des GAFA. Le spatial a un impact pour la recherche de nuisances environnementales, pour les agriculteurs, le recensement des ressources planétaires. Vous dites aussi que la SNCF utilise les satellites pour surveiller la déformation des rails, de TGV, de choses comme ça. Est-ce que cette opportunité, cette dimension économique est une opportunité pour les chercheurs ou plutôt un problème ?
Non, de toute façon, nous faisons partie de la société. À chaque fois qu'on fait une découverte, même aussi magnifique soit-elle, il y a toujours le revers de la médaille. Hein. Il n'y a pas le bien d'un côté et le mal ailleurs. Tout est imbriqué. Internet, c'est magnifique, mais on voit aussi il n'y a pas que des bénéfices principaux avec ce nouveau moyen. Donc oui, c'est vrai que les industriels s'y intéressent, oui, ça c'est certain. Les militaires s'y sont intéressés depuis très longtemps. Pendant très longtemps, l'espace, c'était l'apanage des militaires et des chercheurs. Maintenant, ce sont les industriels, ça va être le tourisme culturel aussi. Bon, c'est clair, oui. C'est vrai que l'espace peut potentiellement donner le pire et le meilleur. Ça peut être effectivement des ressources naturelles, ça peut être des minerais, ça peut être aussi un moyen de développer des bases qui permettront effectivement d'observer le monde, l'univers d'une façon plus facile, comme par exemple si on va du bon côté de la Lune, là on est... voilà. Non, c'est vrai que la connaissance, c'est le mythe de Prométhée, hein, ça apporte toujours des choses positives, mais aussi il faut s'en méfier, oui, c'est clair.
Et la pollution spatiale, par exemple, ou une autre forme de pollution qui est la pollution lumineuse, qui vous oblige à être en mode service, c'est-à-dire avoir une distance entre le télescope et le laboratoire, c'est des choses qui vous embêtent, pour la deuxième, et qui vous inquiètent peut-être pour la première aussi. La pollution spatiale, on n'a pas encore fini de polluer notre planète, qu'on pollue déjà l'espace, c'est problématique ça ?
Je pense qu'on prend conscience quand même de ces problèmes de pollution spatiale. C'est vrai que la plupart du temps, les débris retombent. Quand elles sont en orbite basse, au bout d'un moment, ça tombe. Mais c'est vrai qu'on a conscience qu'il y a quand même pas mal de débris qui se baladent sur ces orbites-là précisément. Et donc ça peut être un problème, oui, ça peut être un problème, ne serait-ce que pour un cosmonaute qui sort dans l'espace. Vous savez, il ne suffit pas grand-chose, hein, une simple bille, quelque chose de tout, un petit poids qui vous passe à travers le corps à 30 km par seconde, ça ne fait pas du bien, quoi. C'est clair. Et voilà, donc ça c'est vrai. Et peut-être qu'on arrivera à faire mieux que ce qu'on fait maintenant, c'est-à-dire que laisser moins de débris dans l'espace. Hein. Regardez par exemple Elon Musk qui arrive maintenant à lancer ses fusées en récupérant une partie des boosters, c'est intéressant. Donc je pense aussi que, voilà, c'est vrai. Mais je pense que toutes ces questions-là vont aller de pair avec la... Voilà, rien n'est neutre. On sait que toute activité, quelle qu'elle soit, accroît l'entropie. Vous savez, l'entropie, c'est une mesure du désordre. À chaque fois que l'on fait quelque chose, on contribue à polluer. Maintenant, il faut polluer intelligemment. Alors, en ce qui concerne, excusez-moi, mais en ce qui concerne les observations, la pollution lumineuse, oui, ça, c'est un vrai problème également. On s'y emploie. Je pense qu'il y a des progrès qui ont été faits dans ce domaine. On voit bien même d'un point de vue touristique. Il y a des villages en France qui veulent avoir un label pour pouvoir le vendre aux visiteurs. On dit, vous voyez, nous, on vous garantit une nuit d'observation magnifique. Bon, c'est pas inintéressant en soi. Et en ce qui concerne les astronomes, ils se réfugient dans les endroits les plus préservés possibles, non seulement à cause de la pollution citadine, mais aussi parce que ces endroits-là sont aussi des déserts, sont aussi des endroits qui bénéficient des meilleurs ciels, hein, les plus sombres, où le climat en général est le meilleur. Il y a le nombre de nuits claires sont les plus importants, ça c'est évident. Mais même dans ces conditions-là, on évite d'observer dans la coupole avec le télescope parce que notre propre température, nos propres instruments ajoutent un peu de turbulence thermique, turbulence de l'air, et donc on arrive à travailler dans des bâtiments à côté du télescope. Voilà. Vous voyez à quel niveau d'exigence on se situe aujourd'hui.
Et rien ne remplace, j'imagine, un regard aussi nu sur le ciel. Vous êtes un peu poète à vos heures, hein, puisque quand vous en parlez, en tout cas, vous parlez de l'émotion que vous avez de vous retrouver devant cet espace infini et mobile, un lieu assez magique. Vous parlez de montagnes tendres, les couleurs infinies, nuancées, qui rendraient fous les aquarellistes. Ce n'est pas antagoniste d'être scientifique, de faire de la recherche fondamentale très précise et en même temps de se laisser bercer, de se laisser emmener un peu par ces couleurs.
Ben non, je pense que les poètes, les écrivains, les philosophes ont dit des choses très intéressantes là-dessus. Ils ont bien, je me souviens plus la citation de Victor Hugo où il dit que la connaissance ne tue pas du tout la poésie. Je crois que c'est l'inverse. La connaissance permet, contribue justement à l'émerveillement. C'est, dans le fond, nous ne faisons qu'interroger la nature. Nous interrogeons la matière, mais nous sommes nous-mêmes de la matière qui pense. Donc c'est intéressant, finalement, la matière qui s'interroge, qui se pose des questions sur la matière. Moi, je trouve qu'au contraire, ça nourrit mon imaginaire. Et de plus, quand on me dit que je suis scientifique, je dis oui, je suis scientifique, mais je ne suis pas que scientifique. Vous n'êtes pas que journaliste, vous n'êtes pas que étudiant à Sciences Po ou philosophe. Chez tout individu, il y a différents aspects de la personnalité. Donc tout cela cohabite et se nourrit et se répond mutuellement.
Non, la poésie ne souffre pas de la connaissance, mais vous dites aussi que la connaissance, si elle n'est pas partagée, perd son sens. On est sur la question de la vulgarisation scientifique, le chercheur dans la vulgarisation de son travail, de grands débats que vous avez peut-être avec vos collègues. Ici, les gens qu'on a la chance d'avoir à l'espace des sciences sont plutôt des gens qui sont partageurs de leurs connaissances. Vous allez plus loin, vous soulignez aussi le rôle de d'autres modes d'expression dans le concept de vulgarisation, la peinture, la musique, la poésie. Pourquoi est-ce que ces modes-là vous semblent importants pour faire passer des messages et des connaissances scientifiques ?
Alors, une des raisons, c'est que l'univers est relativement crypté. Le ciel ne se dévoile pas comme ça. Il est très secret. Hein. C'est vrai que quand on regarde le ciel, à part les planètes que l'on voit légèrement bouger à travers les étoiles, et encore à condition d'observer nuit après nuit, on ne voit pas grand-chose. Bon. Donc, et en plus, la nature semble s'accommoder d'un langage mathématique. C'est comme ça. On ne sait pas trop pourquoi, d'ailleurs. Ça fait partie de débats philosophiques qui datent de Platon et même avant. Donc, cet outil est complexe. C'est pas toujours facile. Donc, c'est intéressant d'avoir recours à des images, à des métaphores, encore qu'il faut faire attention que les métaphores ne compliquent pas plutôt les choses. Parfois, ça arrive. Et donc, moi, je pense très utile, effectivement, de convoquer d'autres disciplines qui permettent effectivement de saisir parfois par analogie des complexes aussi, des concepts assez complexes. Ils ne sont pas toujours complexes d'ailleurs, il ne faut pas croire ça. Mais souvent ce recours-là est intéressant. Et puis en plus, je crois que l'émerveillement de la nature, il nous traverse tous. Et donc dans la mesure où il interpelle les artistes, ce dialogue se fait d'une manière assez naturelle.
Alors concrètement, dans ce cas-là, quand vous faites une découverte scientifique et que vous vous dites « bon, j'ai envie de l'amener jusqu'au grand public », comment est-ce que vous vous y prenez ? Vous avez déjà un carnet d'adresses disponible ? Vous avez déjà des connaissances ? Vous savez « ah tiens, lui, il va savoir me faire ci, me faire ça ». Comment ça se passe ? Vous ne faites pas tout seul, j'imagine ?
Quand je fais une conférence comme celle de ce soir, si, je l'organise un peu tout seul, à partir de ce que je connais, mes collègues, de ce que j'ai fait moi-même, etc. Après, il y a eu des réalisations où, effectivement, j'ai fait appel à des artistes, soit pour m'adresser à des étudiants, soit pour faire un film, parce qu'on a fait, un film. On a fait, par exemple, un film 3D qui s'appelait Helios, qui a été projeté pendant des années à la Cité des Sciences. Et là, effectivement, c'était un projet en collaboration avec un maquettiste, avec un réalisateur, avec quelqu'un. Voilà, donc là, il fallait dialoguer. Quand j'ai travaillé sur un projet qui s'appelait Signalétique Cosmique, en milieu urbain, j'ai rencontré un graphiste très connu d'ailleurs qui s'appelle Gérard Paris-Clavel, qui était le fondateur de Grapus, qui est je pense que c'est un mouvement qui s'est fait connaître dans les années 70, un mouvement graphiste très 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 fort. Et j'ai travaillé avec un centre de culture scientifique et technique qui s'appelait Fondation 93, qui nous a fait nous rencontrer et nous parler. Et lui me parlait de ce qu'il faisait, de ses dessins, de ses croquis, de la manière dont il interpelle la société, parce que c'est surtout quelqu'un qui a vraiment un ancrage social très, très fort. Et je lui dis, voilà, quels sont les éléments les plus importants que tout individu devrait connaître pour se sentir citoyen du monde. Voilà, on s'est dit des choses comme ça. Et comment s'adresser à des gens qui n'iront peut-être jamais voir une exposition, des gens qui sont dans la rue. Et donc on s'est mis d'accord pour partir d'une signalétique cosmique en milieu urbain, pas dans un musée. Et là, je lui dis, voilà, ce qui est important, c'est de savoir que la vitesse de la lumière, c'est 300 000 km par seconde, parce que ça veut dire qu'on regarde l'univers en différé, et pas instantanément. Voilà, des concepts de ce genre. Et lui a décidé, à partir des quelques éléments que je lui ai donnés, il a décidé d'utiliser une charte graphique, celle de la signalisation urbaine, pour en faire une signalisation cosmique à partir de ces concepts-là. Et on a, voilà, on a réalisé des panneaux, qui étaient des panneaux cosmiques, attention, hein, qu'on a placés sur la place de certaines villes, dans certains villages, à côté d'un musée, etc. On a fait venir des gens, les gens sont interpellés, parce qu'effectivement, ça les intrigue de voir un panneau qui ressemble à un panneau de signalisation routière, mais qui n'en est pas un. Voilà. Ce genre de choses, ça nous permet d'atteindre un autre public, et par décalage successif, d'arriver au but d'une autre façon.
Excellent. Un de vos derniers ouvrages, c'est « L'astrologie est-elle une imposture ?» Pour nos auditeurs, je vais lire juste un extrait de comment il est présenté. « Héritière d'Aristote, l'astrologie occidentale se propose de révéler l'identité de l'homme par la lecture du cosmos. Si jadis elle marchait main dans la main avec l'astronomie, elle est aujourd'hui radicalement contestée par la communauté savante. » Pourtant, au-delà des résultats scientifiques que permet d'obtenir non pas l'astrologie, mais l'astronomie, est-ce qu'elle n'est pas également... est-ce qu'elle n'a pas pour objet d'être un catalyseur philosophique un peu de nos grands questionnements métaphysiques ?
Oh, vous lui faites un bel hommage à l'astrologie en disant ça.
Non, ouais, parce que l'astronomie, c'est pas ça finalement. L'astronomie, cette fois.
Ah, l'astronomie, oui, oui, ben, l'astronomie, ça a toujours été effectivement un tremplin pour les grands questionnements. Les questionnements, on en a sans arrêt. Hein. Qu'est-ce que la vie? Pourquoi il y a un univers plutôt que rien? Ça, c'est Leibniz hein, qui pose cette question. Il en pose plusieurs, d'ailleurs. Et pourquoi les lois sont telles qu'elles sont, etc. Et bon, c'est vrai qu'en même temps, il y a une telle, il y a une métaphysique derrière le ciel. Quand on regarde le ciel, on s'interroge. On se dit, mais est-ce qu'il y a un grand horloger? Enfin, ce sont des choses connues. Et c'est vrai que l'astrologie prend ses racines dans ces problématiques-là. Parce que le ciel suscite crainte, espoir, interrogation, de quoi demain sera-t-il fait? Donc c'est tout à fait légitime que l'astrologie ait pu se développer depuis l'Antiquité, et pas seulement en Occident, dans tous les pays. Maya, il y a une astrologie maya, il y a une astrologie orientale, etc. Donc moi, je dénigre absolument pas cela, c'est pas le problème. Non, le problème, c'est que l'astrologie avait, les astrologues avaient très peu de moyens. J'ai dit tout à l'heure, le ciel est extrêmement codé. Qu'est-ce qu'ils avaient à leur disposition? Vous voyez que le ciel tournait, que les constellations. Bon, voilà. Mais aujourd'hui, on dispose, depuis Galilée, depuis 1609, nous avons maintenant la possibilité de regarder le ciel pour ce qu'il est, non pas pour ce qu'il doit nous dire de nous. Et donc le ciel est devenu un objet d'étude. On regarde le ciel en tant qu'objet. Jupiter, ce n'est pas l'avatar d'une divinité. C'est un astre qui est gazeux, qui a des propriétés, etc. Donc c'est ça la différence qu'il y a entre astrologie et astronomie. Ça ne veut pas dire que certains astres n'ont pas d'influence sur nous. C'est vrai du Soleil et c'est vrai de la Lune. C'est indubitable, évidemment. Quant aux planètes, là, c'est compliqué parce qu'on ne voit pas très bien. On ne sait pas quel type d'influence il s'agirait. Ça ne peut pas être une force classique telle qu'on les connaît. Donc il faut là avoir recours à une sorte de forme de pensée magique ou d'une force inconnue. C'est ce que font les astrologues. Mais personne n'a jamais rien démontré. Alors, c'est pour cela que les lois de l'astrologie, quand on les regarde d'ailleurs, il s'agit de l'homme. C'est-à-dire qu'on attribue à Jupiter des liens avec certaines parties de notre corps ou avec nos ancêtres ou avec notre famille, des choses comme ça. Mais Il n'y a rien qui traite de Jupiter en tant que tel, vous voyez ce que je veux dire. Voilà, donc on introduit l'homme dans le code et on ressort l'homme à la sortie. En fait, c'est une façon de parler de l'autre.
C'était Daniel Kunt au micro de Romain pour parler de l'astronomie et d'astrologie. Ce soir, à l'Espace des Sciences, la conférence « Dossier médical partagé et intelligence artificielle » sera avec les invités Yvon Merlière et Romain Farel à 20h30.
Le Labomatique,
l'émission scientifique